Et bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité que j'ai déjà accueilli sur cette antenne il y a quand même quelques années, non ? Au moins un an en tout cas. Bonjour Alexis.
Bonjour Odile.
Donc Alexis Nouella, illustrateur, aquarelliste, naturaliste. Vous faites de très beaux carnets de voyage, ça fait un moment. La passion du dessin, c'est pas nouveau.
Oui, c'est pas une réponse là, c'est plutôt une imitation d'oiseau. C'est un oiseau que je viens d'entendre à l'instant, le coucou, puisqu'on est au mois de mai. Là, c'est vraiment passionnant pour l'observation de la nature.
Alors ça, c'est magnifique. C'était le coucou.
C'est bien que tu aies ouvert la porte, parce qu'il y a le torcol qui chante.
Oui.
Alors le torcol fourmilier, c'est un oiseau de la famille des piques, et son chant ressemble au démarrage d'une deux chevaux. En gros, ça fait un fiam 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 fiam. Alors, quand vous entendez le démarrage d'une deux chevaux, regardez bien sur les arbres, vous verrez peut-être le torcol fourmilier, qui est un oiseau migrateur qui arrive dès le mois de mars dans notre beau pays.
Alors j'adore. Alors moi, avant de parler des dessins, on va faire un petit tour comme ça. Alors d'autres oiseaux du coin.
Ben écoute, les oiseaux, c'est un peu mon fil rouge. Mmh. C'est vraiment le prétexte pour les grands voyages. Et j'ai toujours beaucoup voyagé pour observer la nature. Les oiseaux, on peut les observer pratiquement partout, depuis le Sahara jusqu'à l'Antarctique, en passant par la forêt tropicale, et toute l'année. Donc pour moi, pour réaliser mes carnets de voyage, c'est vraiment une grande richesse que d'observer les oiseaux. Et ça me permet en même temps de rentrer en contact avec les populations locales pour pouvoir comprendre un peu mieux les cultures et leur façon de cultiver, de travailler la terre par exemple.
Alors justement, de quand datent les premiers dessins c'était dans la nature, envie de dessiner. Comment ça s'est passé, le début du parcours
Le début du parcours du gypaète. Alors j'ai appelé ça le parcours du gypaète parce que c'est un oiseau qui a été réintroduit dans les Alpes. C'est le plus grand oiseau d'Europe, qui fait 2,80 m d'envergure. Et pourquoi le gypaète? Parce que pour moi, c'est très symbolique. C'est un oiseau qui a été exterminé par l'homme au XXe siècle et qui a été réintroduit. C'est-à-dire que dans les Alpes, maintenant, on a la chance de le voir. C'est un oiseau qui est très très rare, contrairement au circaète. Il ne faut pas confondre le gypaète, qui est un vautour, et le circaète, qui est un aigle très clair, qui se nourrit de reptiles. Ici, autour de Digne, le circaète est très commun et on l'observe très souvent en train de chasser les serpents. Donc, pour en revenir à mon parcours, j'ai toujours dessiné. Et je viens régulièrement dans le Verdon pour pouvoir croquer les personnes, dessiner les paysages, le patrimoine. Et donc, j'ai réalisé ce carnet de voyage que tu tiens entre les mains.
Aquarelle dans le Verdon d'Alexis Nouella. Alors, c'est quand même un gros livre. C'est important.
Alors, il y a 20 ans de randonnée. Je suis parti de chez moi, en fait. Mmh. Hein, je suis parti de Saint-Bonnet en Champsaur dans les Hautes-Alpes. J'ai passé le col d'Alos et là, je suis tombé sur un festival du livre qui s'appelle Les Feuilles d'automne. Donc, j'étais vraiment dans le Haut-Verdon et au pied des Céolanes, qui sont des sommets magnifiques. Et là, j'ai pu rencontrer d'autres auteurs, des éditeurs, des bergers, des gens qui connaissent bien le Verdon et qui m'ont donné plein d'idées. Donc, le parcours, finalement, c'est une improvisation. Il n'y a pas de programme établi au départ. Je pars sur les sentiers et ce sont les rencontres qui vont faire le carnet de voyage.
Alors, de très très belles aquarelles avec, il y a toujours un petit côté un peu humoristique aussi, hein, ça fait partie du jeu.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir différents regards sur la nature. Il y a le côté un peu naturaliste où je vais représenter les animaux de façon réaliste. Et puis effectivement, de temps en temps, je vais faire du dessin humoristique, en particulier lorsque je vais faire des caricatures de bergers, d'apiculteurs, de gens que j'avais rencontrés sur mon parcours. Tu verras, je crois que tu es sur la page des vautours. Depuis un certain temps, avec la Ligue pour la protection des oiseaux, on observe les vautours fauves, qui sont, il y a plus de 120 couples de vautours fauves dans le Verdon, et un couple de vautours moines qui se reproduit depuis 2013. Donc maintenant, on attend le retour du gypaète barbu. Et on aura bientôt les quatre espèces avec le vautour percnoptère.
Un livre très riche avec des couleurs et puis quelquefois pas de couleurs.
De temps en temps, j'utilise l'encre de Chine. Ça me permet d'avoir une approche en noir et blanc et de varier le plaisir. Lorsque j'ai envie d'utiliser la couleur, je fais parler l'aquarelle. Et lorsque je dessine au trait, lorsque je fais de la bande dessinée, par exemple, j'utilise le noir et blanc. Ça me permet de varier un petit peu les points de vue.
Ce dernier carnet de voyage, est-ce qu'on vous l'appelez comme ça aussi ?
Carnet de voyage, c'est une invitation au voyage. Pour moi, c'est vraiment un itinéraire partagé avec les gens que je vais rencontrer sur le chemin et croiser les regards toujours.
Combien de temps pour faire ces jolis dessins
Le temps s'arrête finalement quand je m'assois dans l'herbe ou dans la neige et que je sors mes crayons, mes pinceaux. Je suis un petit peu sous hypnose. Je regarde la nature, je suis un peu en méditation, en contemplation en tout cas, devant les formes, les couleurs, les lumières. Et le temps s'arrête. Donc ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parfois je suis surpris par la nuit. Parfois la pluie commence à tomber sur l'aquarelle, donc ça fait des petites taches que je vais exploiter justement. Ou alors l'hiver, ça peut être au contraire le gel. À partir de 0 degré, l'eau gèle sur le papier et ça va dessiner des cristaux. Et là, c'est vraiment la nature qui va participer avec moi à la création de l'aquarelle.
Par tous les temps, vous dessinez, vous êtes installé et après, le dessin se compose au fur et à mesure.
Exactement.
Des saisons.
Et en fait, l'automne, bien sûr, avec toutes ses couleurs, l'hiver avec la neige, les ombres. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer un autre regard sur la nature et de sortir de la carte postale. Lorsque le ciel est bleu, parfaitement bleu, je rajoute souvent un petit nuage parce que j'aime les nuages et ils projettent des ombres sur le paysage qui va mettre en valeur le volume, qui va mettre de la perspective et de la profondeur. Donc souvent, il y a une interprétation. Je ne vais pas forcément représenter comme un photographe le paysage que j'ai sous les yeux, mais je vais interpréter et je vais rajouter de la neige, par exemple, si je trouve qu'il y a de plus en plus. Je vais rajouter de plus en plus de neige sur mes aquarelles, puisqu'il se trouve qu'il y en a de moins en moins. Donc finalement, le dessinateur est un affabulateur.
Combien vaut un livre comme celui-ci ?
Alors là, celui-ci, il coûte 30 euros. C'est de l'auto-édition. Donc c'est des tout petits tirages. Ils sont tirés à 100 exemplaires, ce qui me permet de les retirer très facilement. Et puis, je les diffuse finalement souvent de la main à la main. C'est-à-dire que je fais comme autrefois avec les colporteurs. J'arrive dans un village et je vais rencontrer les gens. Je discute dans les bistrots. Je vais voir monsieur le maire. Je vais voir le berger. Je vais voir. C'est ça qui m'intéresse, c'est le contact humain. Alors, bien sûr, j'ai des livres dans les librairies parce que la librairie a une grande importance. Mais j'aime avant tout le contact direct avec les gens.
Et pour l'instant, donc, à votre actif, combien on peut...
Alors, il y a une centaine de carnets de voyage aujourd'hui.
Une centaine ?
Oui, puisque j'ai commencé, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je dessine tous les jours. Donc, ça fait quelques tonnes de dessins qui sont dans des cartons, qui sont par massif, par village, par pays, par continent. Et là, le Verdon, il fallait vraiment faire quelque chose avec ce Verdon parce qu'il y avait vraiment beaucoup de matière, beaucoup de choses à dire. Et j'ai l'intention de parcourir l'arc alpin comme ça, jusqu'à la Slovénie. Donc finalement, de traverser les 8 pays de l'arc alpin en hommage à l'alpiniste Patrick Béraud. Patrick Béraud, qui était un alpiniste français, qui nous a quittés en 2004 et qui était aussi l'un des garants d'une association qui s'appelle Mountain Wilderness et qui s'occupe de la protection de la montagne, dont le siège est à Grenoble.
Donc il est vain de penser que vous pourriez dessiner devant une carte postale ou devant une photo. Il faut être absolument dans
la
nature.
Il faut vraiment être immergé dans la nature, assis sur une fourmilière, les mains un petit peu gelées, la goutte au nez, avec la pluie, la neige, le vent, être dans les éléments. C'est vraiment important d'être complètement dans l'ambiance.
Vous avez appris ?
Alors j'ai appris un peu par moi-même l'aquarelle. Je regardais mon papa qui dessinait, qui peignait, parce que c'était un passionné d'aquarelle aussi, mais en amateur. Et d'ailleurs, c'est toujours bien d'être un amateur, parce que d'ailleurs, tu connais la différence entre un amateur et un professionnel, Odile ?
L'amateur, il fait ça en amateur.
Il y a le mot « aimer » dans « amateur ».
Ah oui.
Alors la différence, c'est que c'est un amateur qui a fait l'Arche de Noé, et c'est un professionnel qui a fait le Titanic. Donc je pense qu'il faut tous rester des amateurs.
Alexis, nous et là, vous ne feriez pas encore quelques petits bruits d'oiseaux ? petit chant d'oiseau.
Tu as reconnu la mésange?
Tout à fait.
Voilà, la mésange charbonnière qui fait des... Ici, autour de Digne, tu peux observer les 7 espèces de mésanges. Et au printemps, tu peux voir plus de 100 espèces d'oiseaux. Il y a une très très grande diversité. Et demain, il y a le parc du Verdon qui organise un inventaire de la biodiversité, aussi bien faune, flore. Et régulièrement, ils font des inventaires pour justement sensibiliser le grand public à cette richesse. Et puis l'importance de protéger la nature.
Alors, inventaire, il va se passer aussi des événements à Digne. Vous serez présent.
Oh, je serai certainement pas très loin, plutôt sur les sommets d'ailleurs, pour par exemple aller observer la vipère d'Orsini, qui est un petit serpent très très rare, très localisé, que j'ai eu la chance d'observer au-dessus de Digne. Et puis, de temps en temps, je participe à des rencontres autour de la parole. J'ai rencontré un éditeur qui s'appelle Jean Darrow, que tu connais bien,
oui.
Édition Parole, et qui a édité un livre très connu maintenant qui s'appelle L'homme semence, écrit par Violette Ayot, qui a vécu dans un petit village qui s'appelle Le Poil. Voilà, je ne te raconte pas l'histoire, je crois que
oui,
tu connais
par cœur. Oui, je la connais. Est-ce que donc il va y avoir des dessins d'Alexis Nouella?
Oh, certainement, certainement. Moi, j'adore les petits villages qui sont perdus dans la nature, où je ressens toute l'énergie et toute la souffrance aussi de ces hommes qui ont vécu pendant des générations. J'ai beaucoup d'émotions devant les ruines, devant les murets de pierre, les fours, les moulins, les lavoirs, tous ces éléments qui font partie de la nature. Et mes carnets de voyage sont là justement pour créer un lien entre la nature et l'homme. Parce que l'homme est capable de faire de belles choses, de très très belles choses.
En même temps qu'il est capable de tout saccager. Voilà.
Mais oui,
c'est bien
mais
de savoir qu'on peut aussi.
Malheureusement, on parle trop des choses négatives et on va finir par croire que l'homme est mauvais à 100%. J'étais à Tanaron il y a quelques mois pour rencontrer Joël. Joël qui est le créateur de la Joëlette.
Oui.
Qui permet aux handicapés de parcourir
de
la montagne.
De partir enfin. Oui. D'ailleurs, il y a un projet très bientôt de... avec Handicap Évasion, là, de partir en haut de la tête de l'Estro avec une joëlette.
Voilà. Alors ça, c'est extraordinaire parce que non seulement on va permettre à des gens à mobilité réduite de faire des sommets, mais en plus, on peut leur permettre aussi de dessiner, de faire des aquarelles, d'observer les oiseaux. Et finalement, quand on regarde au Brésil, le mot handicapé n'existe pas. Les gens qui sont handicapés, on les appelle tout simplement des êtres exceptionnels. Voilà.
C'est joli.
Changement de regard.
Ouais.
On peut parler aussi de l'association À Fleur de Pierre.
Oui.
Puisque j'avais participé plusieurs fois à la fête des jardins.
Vous y étiez cette année, non?
Avec Christelle. Non, cette année, j'essaye toujours de varier le plaisir. Et puis, c'est vrai que j'habite dans le 05. C'est très, très, très loin. C'est une autre planète.
C'est vrai.
Et il faut passer le col Bayard. Il faut franchir les congères, les tempêtes de neige. Il faut passer Gap. Et puis ensuite, il faut passer la citadelle de Sisteron. C'est un voyage au long cours.
Donc, À Fleur de Pierre, c'est une association que vous connaissez bien, les Jardins Solidaires aussi.
Moi, j'adore ces événements parce qu'on met autour de la table, j'allais dire autour du jardin, différentes personnes qui sont autour de... différentes cultures, différentes approches, différentes gastronomies. Et c'est très riche. C'est très riche comme événement. Oui, ça me rappelle la vipère d'Orsini. Je parlais tout à l'heure de ce reptile qui est très, très rare. C'était au sommet du Cucuyon et du pic du Couar que j'ai eu la chance d'observer la vipère d'Orsini. Ça m'est revenu.
Alors, la vipère d'Orsini, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Elle ressemble à une petite vipère à spic. Elle est inoffensive, elle se nourrit d'orthoptères. Les orthoptères, ce sont des insectes, criquets, sauterelles, grillons. On les appelle orthoptères parce qu'ils ont les ailes en angle droit. Et donc, ça permet de mieux s'y retrouver dans le monde des insectes. Plusieurs millions d'espèces.
Alexis Nouella, vous dessinez depuis toujours et tous les jours. Est-ce que vous avez une connaissance incroyable de la nature et des oiseaux en particulier, des vipères aussi? Alors, est-ce que vous avez le goût aussi de transmettre, d'enseigner à des enfants ou à...
Alors pour moi, si je fais ces carnets de voyage, c'est vraiment pour partager cette passion, c'est pour échanger des émotions, et j'essaye d'être le moins spécialiste possible, mais au contraire le plus généraliste possible. Donc les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons, les mammifères, tout ça c'est tellement passionnant qu'une vie ne suffirait pas. Donc j'essaye de dessiner tout ce que je vois, et puis si possible d'identifier, mais je reste dans les grands ordres. C'est déjà pas mal.
Alors là, c'est le but de vos projets après cette aquarelle dans le Verdon. Donc là, il faut vendre après. C'est vrai que c'est aussi tout un autre parcours bien différent.
C'est le même parcours. C'est le même parcours. C'est-à-dire que je joins l'utile à l'agréable. Mm-hmm. Je réalise mes aquarelles, j'imprime, je vends. Dans la même journée, j'essaye de rencontrer les mêmes personnes qui m'avaient montré le chemin. Et finalement, la boucle est bouclée. Je leur montre le livre qui n'est jamais achevé, puisque ce sont des carnets de voyage que je vais reprendre, que je vais améliorer, que je vais réactualiser. Donc finalement, ce n'est pas du tout une corvée pour moi. Je ne suis pas du tout un commercial, même si il faut vendre, évidemment. Je ne vais pas garder mes cartons à la maison, quoique ça pourrait isoler ma maison au bout d'un certain temps. Mais là, par exemple, je vais poursuivre ma route tout à l'heure en direction de Rougon, pour aller voir le point sublime, les gorges du Verdon. Mmh. Et là, je vais dormir chez des amis, Dany et Dany, que tu connais sans doute. Dany et Dany, ce sont des artistes, des peintres, des poètes. Lui écrit des slams, et ils habitent dans la forêt, dans un endroit magique. Et ce week-end, on va fêter avec eux la fête de la terre-mère. Donc musique, dessin, aquarelle, chant, tout ce qu'on peut imaginer au milieu de la nature.
Eh bien, ça fait partie de l'art de mai, tout ça.
C'est ça, ouais. Exactement.
À Rougon. Rougon, je ne vois même plus où c'est.
Rougon, c'est un petit village en nid d'aigle qui domine les gorges du Verdon. Ce n'est pas très loin de Castellane à vol de Circaète, Jean Lebon.
D'accord.
Puisque le Circaète, il est très présent autour de Rougon.
Donc, vous partez pour un week-end à Rougon.
Voilà. Mm. Je vais faire un petit stop chez un ami qui s'appelle Jean-Claude Barbier, et que tu connais bien, qui est écrivain voyageur, qui a eu la gentillesse de m'écrire la préface de mon carnet de voyage. Et c'est l'auteur de nombreux livres, dont La Voix des hauts lieux, que j'invite les amoureux de la nature à découvrir. Donc Jean-Claude, qui est à la fois écrivain et voyageur. Toujours croiser les regards, être à la fois sur le chemin et dans le partage.
Et alors, vous ne voulez pas nous lire la préface de Jean-Claude Barbier?
Ah bah si tu veux. Ça sera de l'impro alors jusqu'au bout. Hein. Mais je vais lire qu'une partie parce que sinon on est encore là cette nuit. Hein. C'est quand Jean-Claude commence à écrire, plus rien ne l'arrête. Alors, je commence. Sa vie afflue au milieu des solitudes. C'est le fou du Val d'Alos. Il s'est levé à l'aube pour boire à la source solaire. Riverain des aigles et des loups, il charrie en son sillage de solides éclats de ciel. Puis il revient défricheur de montagne, de Colmar à Saint-André. Compagnon des pasteurs, il ne boude pas encore son plaisir de bondir. Ensuite, il teste les filles vertes des fjords. Aux étranglements de Castillon et de Chaudanne, où se recueillent des bataillons de mouettes, le voilà maintenant, guetteur des plateaux de Canjuers et de Valensole, entre guerre et paix, se faufilant entre les tonnerres du canon et la mémoire des 500 000 amandiers morts des mains des lavandiers. Puis, acculé par les mours, refoulé par la citadelle des cadières, il pourfend les chaos, insinuant sa lame au cœur de Sainte-Croix. Voilà, Jean-Claude Barbier. Donc la préface de ce carnet de voyage que je viens de réaliser.
Est-ce qu'on fait une pause musicale?
Avec plaisir.
Alors, Michel Jonas, si le ciel, oui. Et voilà, c'était Michel Jonas et on retrouve tout de suite mon invité Alexis Nouella, illustrateur, aquarelliste, naturaliste, qui nous a fait depuis le début de son arrivée dans le studio de jolis chants d'oiseaux.
La chouette-ulotte.
C'est toujours un plaisir d'entendre les oiseaux. Alors on a parlé bien sûr de la sortie de ce tout nouveau carnet de voyage, qui s'appelle Aquarelle sur le Verdon.
C'est ça, oui.
Qui est en vente, qu'on peut trouver dans les librairies.
Alors c'est surtout par le Parc naturel régional du Verdon.
Oui.
Et puis Jean-Claude Barbier, qui donc a écrit la préface du livre, en a quelques-uns aussi sous le coude. Donc vous pouvez le contacter aussi. Sinon, l'idéal, évidemment, c'est de passer dans mon atelier, où je présente tous les originaux du livre. Et mon atelier, il n'est pas très loin de Gap, dans le 05, dans un village qui s'appelle Saint-Bonnet en Champsaur. Voilà, donc si vous arrivez à Saint-Bonnet en Champsaur, vous verrez des panneaux, exposition d'aquarelle, l'atelier du Jipaète, et c'est ouvert toute l'année.
Alors ça, c'est intéressant. Il vaut mieux quand même
Alors c'est mieux de passer un petit coup de fil avant. Je peux vous donner mon téléphone?
Oui.
C'est possible?
Bien sûr.
Alors c'est le 04 92 49 09 65.
04 92 49 09 65. Et il y a toujours quelqu'un, mais
oui.
Vous êtes souvent parti.
Il y a les poules,
parties.
Il y a le lapin, il y a un petit chat, et puis il y a les filles qui sont très souvent dans le coin. J'ai deux filles qui sont au collège et au lycée, mm-hmm. et qui dessinent pas mal d'ailleurs.
Ah oui.
La relève est assurée.
Bon, c'est super. Alors, on va venir à Valensole, un lieu qui vous tient à cœur.
Ah oui, oui, oui. Donc ce parcours que j'ai fait dans le Verdon, je suis parti des Hautes-Alpes, j'ai passé le col d'Alos, je suis arrivé à Colmar, et puis ensuite j'ai traversé tous les petits villages, Trigance, Bargem. J'ai plongé dans le lac de Sainte-Croix, j'ai visité Moustier, je suis monté au sommet du mont Pelat, j'ai replongé dans le lac d'Alos. Et puis finalement, je suis arrivé vers le plateau de Valensole. Et là, j'ai rencontré Pascalette. Pascalette qui a un manège, en tout cas qui avait un manège à pédale. Et alors cette extraordinaire petite femme, elle pédale pour faire tourner son manège. Elle joue de l'accordéon, elle chante et elle joue avec les enfants qui sont sur son manège. Et tout ça en même temps. Donc sur une foire, sur un festival, c'est un véritable soleil et j'ai passé beaucoup de temps à dessiner ce soleil justement qui faisait partie de mon carnet de voyage.
Donc un manège à pédales, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans notre beau département sur les fêtes champêtres et c'est vraiment très sympa. Voilà. Et c'est toute une ambiance tellement différente des manèges.
Voilà,
et
puis en plus il y a les marionnettes, il y a plein de choses qui gravitent autour du manège à pédales. Et donc c'est une belle création. Donc à Valensole, pas très loin, je suis tombé sur un couple d'agriculteurs. Je préfère dire paysans d'ailleurs, hein, un couple de paysans qui font de la lavande, qui font de l'huile d'olive, tout en bio. Et Laurent et Geneviève Bouvin, pour ne pas les nommer, qui sont à la fois des paysans bio et aussi des naturalistes. Donc Laurent, sur son tracteur, il a toujours une paire de jumelles autour du cou. Et il observe par exemple les fauvettes à lunettes qui nichent dans ses lavandes. Il lève le nez, il a le circaète, le rollier, le guépier, le dicnème criard, l'outarde canepetière. Et donc, c'est vraiment agréable de voir qu'on est capable aujourd'hui d'être à la fois paysan, de produire, et en même temps de respecter la faune et la flore.
Alors, vous-même, vous avez des animaux, oui, des poules?
Oui, j'ai quelques animaux. C'est surtout Christine qui s'occupe du jardin. On a des cailles qui font des œufs microscopiques. Nous avons un lapin qui est toujours en liberté. Peut-être qu'un jour, il partira dans les serres du Grand-Duc, mais ça sera comme ça. Et puis voilà, un grand jardin à Saint-Bonnet en Champsaur, qui est le tremplin pour tous les carnets de voyage que je réalise, que ce soit dans le nord, vers le massif du Mont-Blanc, le massif de Belledonne, le massif de la Vanoise, jusqu'à la Slovénie, finalement, en passant par l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse. Et puis, comme aujourd'hui, le Sud, le Verdon, le Luberon, prochain carnet de voyage avec le parc naturel régional du Luberon, et puis la vallée du Jabron, la vallée de la Méouge, le Mont Ventoux, bien sûr, la vallée du Rhône avec les Alpilles, la Camargue. C'est un carnet de voyage, quand ça commence, ça ne s'arrête plus. C'est un peu comme une rivière, donc il faut se mettre dans le courant, et puis il faut essayer de ne pas se prendre un caillou, quoi, sinon c'est pas gai. Mais voilà, c'est le plaisir de la rencontre et du partage.
Donc le Luberon, prochain carnet de voyage.
Voilà, avec le parc naturel régional du Luberon. Et là, pour moi, c'est facile. Depuis le Verdon, j'ai juste à sauter par-dessus la Durance.
Alors, on en vient à quoi maintenant?
Ben écoute,
qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter?
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans mes carnets de voyage, c'est de mettre en valeur les initiatives locales.
Oui.
Donc, je te parlais de l'association à Fleurs de Pierre.
Oui.
Il y a partout en France, on n'en parle pas assez, des initiatives très intéressantes pour faire des courts-circuits, pour rapprocher les consommateurs des producteurs. Donc, du coup, les consommateurs deviennent acteurs. Hein. Ce sont des consommateurs avec les fameuses AMAP. Il y a plusieurs milliers d'AMAP en France aujourd'hui. Moi, j'ai la chance à Saint-Bonnet d'avoir une épicerie bio et locale qui s'appelle la Juncha. C'est un mot d'origine champsorine qui est à Pont-du-Fossé, à côté de Pont-du-Fossé. Et là, toute l'année, on peut avoir un contact avec les producteurs, avec les paysans, les apiculteurs, les bergers. Et tout ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il se passe plein de choses qui sont très positives. Je crois qu'aujourd'hui, on est condamné à l'optimisme. Parce que c'est, de toutes les façons, c'est beaucoup trop tard pour être pessimiste.
C'est vrai. Alors, restons optimistes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives locales. C'est vrai que ça bouge. Et puis
surtout au mois de mai, en ce moment,
oui,
tous les jours.
Cité solidaire, il se passe plein de choses.
Le week-end prochain, donc demain, il y a un très grand festival à Gap, organisé par une association qui s'appelle Mobilidée. Mobilidée qui s'occupe du vélo, bien sûr, mais de tout ce qui est mobilité douce, respect de l'environnement. Et ce festival s'appelle Festividée. Donc c'est peut-être sa 10e édition. Et il y a des stands, il y a des projections de films. Et on peut venir avec son vélo, on peut acheter un vélo, on peut échanger. C'est un lieu de rencontre qui a lieu en plein cœur de Gap, qui est jumelé justement avec le théâtre de rue, avec la passerelle. Donc c'est d'autant plus riche quand deux festivals se croisent pour échanger des idées et communiquer mieux.
Et il y a plein de choses aussi. Il y a aussi à Moriez l'art de mai, l'art de ferré, avec beaucoup d'artistes exposants.
Oui.
Et oui, il y a beaucoup de choses partout en même temps.
Ben, tant mieux, comme ça, on se découpe en morceaux et puis on essaye de tout faire.
Voilà.
Mais la semaine dernière, par exemple, à Pont du Fossé, alors Pont du Fossé, c'est pas loin de Gap, c'est dans le Champsaur, on a eu la chance d'avoir un festival sur les voyages qui s'appelle Retour du Monde. C'était la première édition, c'est une équipe de passionnés qui a monté le festival comme ça. Et il y a eu plus de 1000 entrées pendant la semaine, avec des projections et des rencontres avec les réalisateurs, avec les voyageurs, les grimpeurs, les gens qui revenaient de leur voyage à vélo, à cheval, en kayak, en parapente, et j'en passe. Donc c'était un très très beau festival et je vous invite pour mai 2017 déjà à penser à venir à la deuxième édition de ce festival qui s'appelle Retour du Monde.
Retour du Monde, et c'est où ?
Ça se passe à Pont du Fossé, donc c'est à 10 minutes de Gap. Vous passez un petit col qui s'appelle le col de Mans, qui est beaucoup plus joli que le col Bayard. Et au col de Mans, vous pouvez donner un petit coup de jumelle à droite et à gauche et vous pourrez voir les faucons cobèzes qui sont des rapaces de l'Est et qui viennent chaque année rendre visite au département des Hautes-Alpes et on va dire dans le sud de la France et dans le nord aussi d'ailleurs. Voilà, un petit rapace qui ressemble beaucoup au faucon cresserelle et qu'on appelle le faucon cobèze.
Bien, retour du monde. Retour du monde ?
Retour du monde.
Retour du monde. À Pont du Fossé, édition, deuxième édition, donc en 2017.
2017, ouais, c'est bientôt. À l'échelle géologique, c'est dans quelques secondes.
Quelques mois. Quel mois ?
Ça se passe au mois de mai.
Mai, d'accord.
Alors ça, c'est le bouvreuil pivoine. Et en ce moment, il y a le Pouillot Véloce qui chante. C'est le compteur d'écus. C'est un petit oiseau qui compte ses pièces. Alors il fait tip, tap, tip, tap, tip, tap. Et chaque oiseau, finalement, a un chant bien particulier, ce qui permet de l'identifier sans même le voir. Un aveugle peut être le meilleur ornithologue du monde, puisqu'on regarde d'abord avec nos oreilles pour identifier les oiseaux. Et puis ensuite, si on a la chance de le voir, on peut justement croiser ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. Ce qui permet ensuite de le dessiner pour mieux le connaître. Puisque chaque oiseau, finalement, a sa personnalité, son caractère. Mais ça, c'est aussi une interprétation. Le coucou, par exemple, que j'imitais tout à l'heure, il n'est pas méchant. C'est vrai que la femelle va pondre ses œufs dans le nid d'autres oiseaux, mais ce n'est pas du tout par cruauté. C'est parce que le coucou est un oiseau qui mange les chenilles urticantes. Et le poussin du coucou est incapable de manger ses chenilles urticantes. Il n'a pas encore l'estomac qui est adapté. Donc c'est un autre oiseau, comme le rouge-gorge par exemple, qui va nourrir le jeune coucou. Voilà. Mais c'est vrai que le coucou ne pourra pas résoudre le problème des chenilles urticantes, qui n'est pas un problème énorme d'ailleurs. Hein.
C'est quoi, c'est les chenilles processionnaires?
Tous les nids blancs qu'on voit dans les pins.
Oui, c'est ça, c'est des processionnaires.
Ce sont les chenilles processionnaires qui sont urticantes.
Mais qu'on ne trouve pas de...
On les trouve partout maintenant. Hein. Elles sont, elles
quels sont, sont les prédateurs alors?
Ben justement, le coucou, les mésanges.
Alors, il
n'y
a pas assez de coucou alors?
Non, il n'y en aura jamais assez. Mais en tout cas, si on prend du recul et qu'on regarde la forêt, on peut voir que finalement, c'est très positif. En tout cas, moi qui suis aquarelliste, je regarde le paysage qui évolue et j'ai l'impression que ces petites bestioles, ces petits insectes sont en train de réparer les erreurs de l'homme, puisque ce sont des monocultures qui ont été plantées il y a plus de 100 ans. Donc c'est, la nature a horreur de la monoculture. La nature, elle, c'est la biodiversité qui l'intéresse. Et les chenilles urticantes sont en train de réparer les erreurs du passé.
Comment ?
Eh bien, elles sont en train de bouffer tous les pins. Donc elles vont ouvrir les milieux. Les pins vont peut-être mourir et laisser place à une forêt qui sera différente. La nature a trouvé, a trouve toujours les solutions. Il y a toujours un plan B dans la nature. C'est pour ça que j'invite les personnes à sortir, à ouvrir leurs portes, leurs fenêtres et juste à regarder une abeille, simplement. Une abeille qui est en train de faire des grands cercles dans le ciel pour explorer son territoire. Et elle va trouver ses sources de nourriture. Elle va informer la colonie avec des danses. Et ça, on ne prend plus le temps de regarder la nature. On ne prend plus le temps d'observer une abeille. Et pourtant, c'est une thérapie pour nous, puisque la société est complètement malade. On court à toute vitesse dans tous les sens. On va remplir nos jerrycans aux pompes. On est devenu complètement parano, schizophrène. Donc, en regardant cette nature... On est face à un spectacle qui nous enrichit et qui nous donne plein d'idées audacieuses pour notre survie de demain.
Donc la nature a toujours un plan B.
Toujours. Les ours polaires, qui sont en train de voir la banquise disparaître, ont déjà trouvé des solutions. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de casses. Il y a beaucoup d'ours polaires qui vont mourir de faim, puisqu'ils sont vraiment reliés aux phoques. Ils sont surtout carnivores. Et on a déjà observé des ours polaires qui ont changé de territoire, qui ont changé d'écosystème, qui ont changé de nourriture. Et finalement, quand on observe la nature, il y a toujours une lueur d'espoir.
Alors, pour parler de lueur d'espoir, donc c'est toujours les jardins solidaires samedi. On en profite pour en reparler à Digne, route des Termes, avec un programme riche, je le disais tout à l'heure. Il se passe vraiment beaucoup de choses sympas et notamment il y aura une sensibilisation aux enjeux des pesticides.
Ah oui, il faut qu'on se débarrasse définitivement des pesticides qui ont empoisonné toute la biodiversité. En France, surtout les insectivores, hein, les oiseaux, les chauves-souris, c'est l'hécatombe. Donc il faut vraiment qu'on se débarrasse de ces pesticides. C'est la science du XXe siècle. Il faut passer à autre chose maintenant et ça fera beaucoup de bien à la nature.
Vos projets, donc, on a bien compris, ce soir, vous allez encore faire des rencontres. Et puis demain, donc, un week-end très riche.
À Rougon, au-dessus des gorges, voilà, du Verdon. On va aller rencontrer Monsieur Martel, le grand spéléologue. J'aime bien parler au présent de ces gens qui nous ont quittés, parce que pour moi, ils sont toujours là. Ils sont là, ils respirent. C'est grâce à eux qu'on a toutes ces connaissances. Et un carnet de voyage, c'est un voyage dans l'espace, mais c'est aussi un voyage dans le temps. Donc ça m'arrive de croiser des gens comme Léo Ferré, Georges Brassens, voilà... Et puis Théodore Monod, Jean-Marie Pelt, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais qui est toujours là, avec toutes ses connaissances, avec tout son enthousiasme. Théodore Monod, qui est toujours sur son dromadaire, en train de compter ses grains de sable. Et puis voilà, c'est ce qui me motive, hein, c'est de voir que les gens sont toujours là, passionnés et passionnants.
Alors vous avez deux filles, vous les avez, donc elles sont aussi... intéressée par l'aquarelle?
Alors il y en a une qui joue au piano, Mélie, elle a 15 ans, elle joue de mieux en mieux au piano, et puis elle accompagne sa sœur, Colline, qui a bientôt 18 ans, et Colline chante, elle a une très belle voix, donc ça fait aussi partie du carnet de voyage, c'est-à-dire que on essaye de faire des choses intergénérationnelles. C'est toujours plus riche de voyager en famille. On a eu la chance d'aller au Costa Rica tous les quatre, donc Christine, Colline, Mélie et moi. Et on a passé plusieurs mois dans la forêt à observer les oiseaux, à observer la nature. On a réalisé un carnet de voyage à 4 mains, ou plutôt à 8 mains. Et donc on est revenu de ce voyage avec plein de lumière dans les yeux.
Donc d'autres voyages prévus encore en famille ?
Oh, certainement. Maintenant, les filles, elles sont grandes. Elles voyagent par elles-mêmes. Mélie, elle va s'envoler pour l'île de la Réunion. Colline, elle va faire un séjour en Angleterre. Elles ont toujours été très, très autonomes. Et puis, elles parlent plusieurs langues, donc elles sont à l'aise. Maintenant, on voyage moins à quatre, mais on a toujours du plaisir à partager des choses ensemble.
15 ans et 18 ans.
16 ans et 18 ans.
16 ans et 18 ans. Et déjà, l'envie de... Et qu'est-ce qu'elles vont faire?
En fait, c'est pas récent. Depuis toute petite, elles ont été trimballées par leurs parents à droite, à gauche. Et le premier voyage au Népal qu'elles ont fait, elles avaient 3 et 5 ans. Donc, à Katmandou, elles couraient dans les rues. Elles étaient émerveillées par cette capitale qui, malheureusement, a été bien secouée récemment. Et elles ont tout de suite pris goût au voyage. Alors, 3 et 5 ans, c'est vrai que c'est très jeune. Elles n'ont pas beaucoup de souvenirs. Mais elles ont toutes les photos, elles ont les dessins, elles ont les images qui sont là pour leur rappeler les souvenirs.
Alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter avant que l'on se quitte ?
Je pourrais imiter le torcol fourmilier, là, qui chante toujours. Voilà, alors ça, c'est vraiment le démarrage de la deux chevaux, hein, c'est très facile à retenir. Essayez de le voir, il est complètement invisible, il a un plumage homochromique, on dirait un morceau d'écorce. Et sinon, il y a l'engoulevent là, qui va chanter bientôt. L'engoulevent qu'on appelait autrefois le têteur de chèvres, parce qu'on pensait qu'il rentrait dans les bergeries pour têter les chèvres. En réalité, il était attiré par les insectes, c'est un oiseau insectivore. Hein. Et donc le têteur de chèvre, ça lui est resté dans son nom scientifique, puisque l'engoulevent, c'est Capra mulgus, le têteur de chèvre. Voilà, ça fait partie de ces oiseaux qu'on peut observer autour de Digne. Que dire de plus ? Ben moi, je vous invite à visiter mon atelier un jour à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Si un jour vous faites le parcours Grenoble-Gap ou Gap-Grenoble et que vous prenez la route Napoléon, vous passez par Saint-Bonnet-en-Champsaur et vous verrez ces panneaux, exposition d'aquarelles. Donc c'est ouvert toute l'année et je vous proposerai donc un voyage à travers mes aquarelles, à travers les 7 continents. Voilà, merci beaucoup Odile.
Merci, donc on rappelle le numéro de téléphone 04 92 49 09 65. C'est plus prudent pour venir
oui.
à vous
et
voir.
Puis, et si vous voulez jeter un œil sur mon site, c'est alexis-nouella.com.
Alors, Nouella avec
Alors,
une orthographe.
Nouella, ça vient d'Auvergne, c'est assez compliqué. C'est N-O-U-A-I-L-H-A-T. Et il paraît que ça serait de l'occitan.
Ça
m'oblige à faire un carnet de voyage sur le Massif Central. C'est reparti.
D'accord. Merci de votre visite à Digne. On rappelle qu'on peut trouver donc votre dernier carnet de voyage et peut-être d'autres aussi.
Tous mes carnets sont présentés dans mon atelier.
Oui.
Et puis sinon, Jean-Claude Barbier présente le livre sur le Verdon.
Merci, à bientôt. Au
Merci,
revoir.
À très bientôt.